route 66, l'émission des Music Roots américaines sur Radio RDL, 103.5 FM avec Jean-Luc et David.
Ma seule liberté est de rêver, alors je rêve de liberté. Voici une citation du journaliste Benoît Granger que pourrait faire sienne le groupe Dirty Deep. Ce concept musical, débuté sous la forme d'un one-man band sous la houlette de Victor Sbrovazzo, ultime barde d'une musique électrifiée née dans des marécages squattés par les alligators, est devenu aujourd'hui, comme vous le savez, un trio énervé qui s'appuie également sur les talents du batteur Geoffroy Sorpe et du bassiste Adam Lanfray. Un combo qui fourmille d'idées et qui met tout en œuvre pour les réaliser. Tourner aux USA et se frotter à toutes les formes de tradition locale, qu'à cela ne tienne, les trois compagnons franchissent l'Atlantique et se produisent sur les traces de leur glorieux aîné bluesman. Donner un concert en première partie de Johnny Hallyday, qu'à cela ne tienne, Dirty Deep envoûte la foule avant l'éternel idole en juillet 2016. Faire se dresser les poils de furieux bikers et les abasourdir via un déluge de décibels, qu'à cela ne tienne, les Strasbourgeois maintiennent en haleine les 20 000 amateurs de musique réunis lors de la dernière édition des 24 heures du Mans Moto. Aujourd'hui, ces disciples du groupe Leftland Cruiser et du pianiste illuminé James Legg, avec lesquels ils peuvent se targuer de donner des concerts ou d'enregistrer, nous reviennent avec une édition enrichie de l'album What's Flowing in My Veins, édité à l'origine en 2016 et qui nous avait déjà valu la visite de Victor. Il faut dire qu'entre nous et le chanteur-guitariste-harmoniciste, une complicité durable s'est établie. Probablement le fruit d'une rencontre entre clochards célestes qui se sont immédiatement reconnus. Alors, pour la quatrième venue de Dirty Deep, une régularité qui n'égale pas, il faut bien le dire, celle que nos amis appliquent en termes de décapsulage de bouteilles de Coors, de Sierra Nevada ou de Budweiser, dégageons la voix et laissons-les démontrer la manière dont ils savent faire vrombir les moteurs sur la route 66.
Yeah.
of a Ride. On ne sait pas exactement comment, mais en tout cas, il est arrivé. C'est Victor, chanteur, guitariste, harmoniciste de Dirty Dipped. Un concept qu'on vous a déjà largement présenté dans l'émission lors de ces trois précédentes venues. Nous allons donc tout de suite en venir à l'essentiel. Mais d'abord, on va commencer par te saluer, Victor.
Bonsoir.
Alors, tu nous reviens tout simplement parce que l'album What's Flowing in My Veins ressort en 2017, hein, tu nous l'avais présenté l'an passé. Il ressort enrichi de quelques titres. Pourquoi avoir décidé de le ressortir dans cette formule augmentée ?
La principale raison, c'est que du coup, on a quitté notre précédent label pour même nos deux précédents labels, j'ai envie de dire, qui étaient Elprod et Beast Record, pour se réorienter vers notre propre label qu'on a monté depuis, qui s'appelle Junk Food Records, et se greffer au label strasbourgeois Defrock. Du coup, vu qu'on s'était, on n'avait pas vraiment encore énormément de morceaux en préparation pour en sortir un nouveau, on s'est dit que on allait continue à faire vivre cet album qui malheureusement avait pas eu énormément de vie médiatique pour cause de complications. Du coup voilà, on a décidé de lui donner un peu une deuxième vie, une deuxième chance avec une version augmentée pour justifier une ressortie. Et en plus de ça, on était de toute façon vide de tout stock de la première version.
Junk Food Records, tu nous l'as dit, donc c'est un label que tu as monté, c'est un travail que tu as mené tout seul. Est-ce que tu as été accompagné dans cette démarche?
On va dire pour le monter, j'ai plus ou moins été accompagné de quelques acteurs culturels de Strasbourg, notamment de l'aide des gens de l'espace de Django Reinhardt, un petit appui aussi de Defrock qui nous a gentiment aiguillé pour certaines choses, aussi notre tourneur Jérémy de chez V2C à Belfort qui nous a été d'une grande aide. Après la vie actuelle du label, c'est moi qui la gère tout seul en donnant des aides de booking à des groupes que j'aime bien, très souvent étrangers, en donnant des conseils management à des groupes locaux que j'aime voire admire aussi. Et voilà, du coup c'est une chance de faire quelque chose en parallèle.
Et c'est une certaine façon également d'officialiser ces travaux que tu réalisais toujours par copinage auparavant.
C'est un peu ça, oui. Du coup, c'est vrai que depuis la montée du projet Dirty Dipped en 2011, j'ai quand même accumulé pas mal de contacts et connaissances dans l'Hexagone. Alors du coup, je les mets en œuvre pour que ça file une patte un peu à d'autres gens, quoi.
Et quels sont les objectifs du label? Est-ce qu'il y a déjà des sorties de programmer? Est-ce que tu comptes uniquement t'en servir pour appuyer ta propre musique? Ou alors est-ce qu'on va y retrouver d'autres groupes?
Alors pour être sincère, pour l'instant on est pauvre. donc non, pour l'instant c'est uniquement pour encadrer. De toute façon, à l'origine c'était pour encadrer uniquement le groupe Dirty Dipped. Dans un futur proche ou moins proche, ce sera peut-être éventuellement pour donner un coup de main à d'autres gens, peut-être des sorties, quand on sera un peu moins pauvre et peut-être des choses comme ça. Mais ça reste dans un coin de la tête et l'envie y est en tout cas.
Et donc tu auras deux casquettes sur ce label à savoir celle de label musical mais également celle de tourneur. Alors, est-ce que ce sera des activités qui sont diversifiées?
Non, l'activité tourneur, j'aimerais m'en éloigner vraiment beaucoup parce que ça m'embêtait énormément déjà étant tout seul et pour m'occuper de mon propre projet, donc c'est vrai que c'est assez chronophage comme activité et j'ai pas forcément envie de faire entre guillemets ni métier ni carrière là-dedans, mais je le fais on va dire ponctuellement pour des gens que j'aime beaucoup, comme j'ai commencé à le faire en fait pour James Legg quand il est passé d'une boîte de tour à une autre. Je le fais un peu pour Shake It Like a Caveman, que vous avez déjà accueilli ici. Je l'ai fait aussi peut-être pour Blues Against Youth, que vous avez peut-être aussi accueilli ici.
Pas dans les studios, non?
Pas dans les studios, mais en tout cas, on s'est croisé à son concert à Colmar. Enfin voilà, pour ce soir, j'organise un concert d'un groupe qui s'appelle Avalanche Party, qui est un groupe anglais de garage excellent, qui joue au Mud Club. Voilà, c'est le genre de truc que je m'amuse à faire.
Revenons-en tout de suite quand même à cet album. Alors, 4 titres ont été ajoutés. S'agit-il de morceaux émanant des chutes de la précédente version, ou alors est-ce qu'il s'agit de nouveaux titres qui ont été enregistrés spécialement pour l'occasion?
Alors, je vais qualifier cette ressortie de Frankenstein, parce qu'effectivement, on a un morceau qui est une chute de l'enregistrement du premier. Ensuite, il y a 3 morceaux qui ont été enregistrés dans le très bon White Bite Recorders de Rémi Gitlif dans le Sungo, qui est un studio qui fonctionne uniquement sur du matériel des années 70, tout à bande, analogique, avec lequel on a sorti le 2 titres avec James Legg, qui s'appelle Written in Coffee Grounds. Et voilà, donc du coup, on a décidé de remettre au goût du jour, en version trio, 2 anciens morceaux de l'album précédent, Shotgun Wedding. Et le dernier qui est un morceau acoustique que j'ai fait tout seul, qui est un inédit que j'ai écrit la veille d'y aller.
Et est-ce que cela nécessitait de retravailler également les autres morceaux pour que le son soit linéaire, ou alors est-ce qu'il n'y a pas eu de remasterisation en ce qui les
concerne ? Tout a été remasterisé. Tout a été remasterisé en fonction du mix des 4 morceaux ajoutés pour l'édition Deluxe ici.
C'est donc le cas de Holly Pocket Boogie que l'on écoute tout de suite et qui ouvre l'album. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Route 66 sur le 103.5 FM et de www.rdl68.fr. Notre invité du jour est Victor du groupe Dirty Deep qui vient nous rendre une plus petite visite pour la quatrième fois. Ceci afin de nous parler de la ressortie de l'album What's Flowing in My Veins. Mais avant cela, j'aimerais quand même saluer les deux grands absents du jour, à savoir Geoffroy et Adam, qui ne sont pas là, mais qu'on salue évidemment.
Oui, ils sont pas souvent là.
Ils sont jamais venus d'ailleurs. Ils ont un truc avec nous, je sais pas.
C'est ça.
Alors, 12 mois se sont écoulés depuis ta dernière venue. J'aimerais un petit peu revenir sur cette année qui a été quand même assez riche en termes de concerts et de rencontres. Tout d'abord, j'aimerais que tu me parles de l'aventure américaine. C'était une première pour toi. Est-ce que tu peux donc revenir sur cette tournée, la manière dont elle s'est construite et comment elle s'est déroulée?
Oui, c'est un sujet vaste. C'est vrai qu'on a mis à peu près un an à prévoir et à programmer cette tournée, que ça soit autant d'ordre financièrement que booking simplement. Après, une fois sur place, c'est vrai qu'on a il y a on va dire trois endroits que j'ai vraiment gardé en tête. Je mettrai en première position la fabuleuse ville de Clarksdale dans le Mississippi qui est vraiment incroyable parce que historiquement elle porte un peu l'histoire du blues sur ses fondations et c'est vrai que le fait de la traverser c'est une très belle expérience et le fait d'y avoir joué, on a eu la chance d'ouvrir pour le Cedric Burnside Project dans la fameuse venue du Shack-up Inn, qui est du coup une sorte de grange placée entre deux champs de coton. C'est assez fou à regarder. Et puis c'est vrai qu'on a on a ouvert pour Cedric Burnside, sachant que R.L. Burnside reste un de mes bluesman préférés de tous les temps, et il s'avère qu'il joue avec ne serait-ce que le fils de Junior Kimbrough, qui est mon deuxième bluesman préféré de tous les temps. Donc c'était plutôt expérience forte en coton. et puis après on a aussi une très belle expérience en Caroline du Nord, qui est une région que je connaissais malheureusement que par le basketball, parce que je suis un grand fan de l'équipe de Charlotte. Et c'est la région où vit Blake de Shake It Like a Caveman aussi, qu'on a du coup revu là-bas, avec qui on allait faire une randonnée. On a croisé un ours d'ailleurs en partant de la randonnée, c'était assez fou. Je pense la ville de mon j'espère dans longtemps de ma retraite, qui est la Nouvelle-Orléans, que j'ai trouvé incroyable. Alors j'ai pris les plus grosses baffes musicales que j'ai jamais pu prendre de toute ma vie. C'est une ville qui dort pas, ça joue de 10h du matin à 5h du matin. On y a vu des alligators, on a tenu des alligators. J'ai d'ailleurs un portefeuille en alligator ici présent. La ville est un alligator géant, c'est vraiment fou. On voit le fleuve du Mississippi se jeter dans le golfe du Mexique, c'est complètement taré. J'y remettrai les pieds avec très grand plaisir.
Et combien d'états as-tu traversé et en combien de jours?
De tête, si je me souviens bien, c'était 6 états en 15 jours de vie là-bas et 10 concerts.
Ok.
Donc ça restait assez dense, mais on a quand même pu visiter pas mal de choses comme Thurman Records, le label à Nashville de notre ami Jack White, et Stax Records de la période soul à Memphis. On a vu aussi le jet privé de d'Elvis à Graceland. C'était assez beau.
Le trip devait être filmé. Est-ce que la chose s'est concrétisée? Vous en avez ramené des images?
Dans la tête. Non, effectivement, c'est quelque chose qu'on regrette, mais malheureusement c'est comme tout sur cette bonne vieille planète et budgétisable. On voulait partir avec quelqu'un qui filmerait, parce que je savais que c'était une cause perdue d'avance de le faire nous-mêmes. Il s'avère qu'on est parti avec une caméra et que à part filmer, on a filmé un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'on a écouté sur la route de Memphis d'Eddie Mitchell en allant à Memphis. Et voilà, on a filmé ça. C'est la seule image qu'on a gardée.
Autre belle aventure justement liée à un ami d'Eddie Mitchell, c'est Johnny Hallyday dont vous avez réussi à faire la première partie après bien des efforts, hein, puisque je me souviens d'une pétition qui avait été lancée sur le net en disant voilà, on veut absolument faire la première
partie. C'était pas vraiment une pétition. c'était une fabuleuse idée de Joe que de créer un événement fictif proposant une première partie fictive pour un concert fictif. Et qui s'est, c'est marrant. Un an après, quasiment jour pour jour, à une semaine près, réalisé, on a pu rentrer en contact un peu avec la prod qui les faisait jouer à Haguenau. Et bon, malheureusement, on n'a pas rencontré ce bon vieux Johnny Hallyday, mais on a rencontré. Bon, je pense qu'il n'écoute pas ce soir, mais Yarol Poupeau, qui est depuis devenu un j'ai presque envie de dire un ami. Voilà, quelqu'un qu'on respecte énormément, mais qui nous respecte aussi dans notre sens. Et puis avec qui on a pu faire la première partie pour son groupe Black Minou à Paris il y a pas longtemps.
Justement, je voulais évoquer cette relation que vous entretenez maintenant avec Yarol Poupeau, qui est également le guitariste du groupe FFF et d'un autre groupe que je trouve excellent qui s'appelle Black Minou.
C'est ça.
Donc vous avez fait sa première partie, je crois que c'était au Bus Palladium, hein, il s'y produit, je crois, un jeudi par mois.
Un jeudi par mois, ouais. Il a quand même le bassiste de Eric Truffaz en tant que bassiste, d'autres personnes dont le claviériste et le deuxième guitariste de Johnny Hallyday aussi dans la formation.
Et il avait découvert votre musique avant de vous rencontrer lors de ce gig à Haguenau. Est-ce qu'il la connaissait déjà ou alors est-ce que vous pas l'avez remis l'album sur place?
Non, en fait le truc encore plus stressant que les 9000 personnes en face de nous, c'était qu'il a passé le concert à nous ausculter derrière scène et je le voyais au-dessus de mon épaule et ça me faisait encore plus peur que les sosies de Johnny qui remplissaient les trois premiers rangs du concert. Mais c'était vraiment chouette et on a pas mal discuté à la fin du concert et puis effectivement c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main, qui est très gentil, qu'on a revu avant le concert d'ouverture pour Black Minou parce qu'il répète pour avec FFF dans une salle à Paris où on a ouvert pour les Flame Cruisers et du coup il est venu aux Balances, il nous a offert gentiment une bière et on a bien échangé autour de ça et puis voilà. Et puis le concert au Bus Palladium était vraiment chouette. Déjà moi je connaissais pas Black Minou, c'était vraiment un chouette concert. Et puis il avait quelques invités de renommée, notamment Nono avec qui j'ai déjà mis sur scène à l'harmonica avec Nono et du coup, Yarol, c'était une belle expérience. Joe a pleuré.
J'imagine. Et le Bus Palladium en lui-même, c'est aussi un endroit mythique. Hein.
C'est fabuleux. Je pense que j'ai jamais vu une salle aussi, entre guillemets, peu grande et qui sonnait aussi bien. Et l'ambiance était chaude. C'était très, très chaud. J'ai rencontré notamment Manu Lanvin, que j'avais jamais rencontré dans la foule, qui m'a reconnu par ma casquette Chuck Upin de Clarksdale, venant m'aborder et m'offrant un shooter de whisky. Très gentil personnage.
J'en perds le fil, j'en perds le fil de ma discussion, de mes questions. Donc on a parlé de Yarol Poupeau et tu me disais que maintenant c'était presque un ami. Est-ce que cette amorce d'amitié pourrait aboutir à des collaborations? C'est quelqu'un qui ferait un très bon producteur pour un futur album de Dirty Deep.
Pour l'instant, on s'offre juste des bières et on s'appelle une fois de temps en temps. Je reste notamment relativement stressé quand je vois apparaître le nom Yarol Poupeau sur mon téléphone et que je dois décrocher et que lui me dit qu'il fait de la trottinette avec ses gamins. C'est assez marrant. J'en sue des mains pendant qu'il s'évente avec ses enfants. C'est assez rigolo comme relation pour l'instant, mais j'espère que oui, peut-être dans un futur proche, ça puisse aboutir à des collaborations ou des échanges.
Alors avant d'extraire un nouveau titre de l'album, j'aimerais également revenir sur une autre grosse manifestation tout aussi mythique. On parlait d'endroits légendaires avec le Bus Palladium, mais tu t'es également produit sur la grande scène des 24 heures du Mans Moto, là aussi qui est un lieu rock absolument culte.
Ah oui, complètement. Alors du coup, le programmateur et directeur de la scène... Et il y a un mec assez formidable, très ouvert d'esprit, très gentil. Le public des 24 heures du Mans est très spécial. Parce que très souvent, ils regardent le départ de la course, la fin de la course. Et je pense que tous les bars de l'univers doivent marcher entre ces deux moments. Donc du coup, c'était un très bon public, très très nombreux, un peu stressant de jouer devant une foule aussi grande en délire et ivre de vivre. Et c'est vrai qu'en plus on avait joué pour en ouverture de Matmata dont quelques-uns des membres qu'on avait rencontrés parce qu'ils ont une salle en Bretagne à Plougastel d'Aoulas qui s'appelle l'espace Avelvor qui est, et voilà c'était le bassiste du groupe qui est quelqu'un de très gentil aussi et très accessible. Mais c'est vrai que c'était une très belle scène. Le bruit des motos fait mal à la tête au bout d'un moment.
et la graisse salit les mains des mags, nous allons tout de suite nous laver dans une eau boueuse. Dirty Deep, et nous retrouvons immédiatement Victor dans la formule la plus simple, telle qu'il était venu il y a déjà de cela 4 ans, que lorsqu'il jouait tout seul. Victor, tu vas nous interpréter en acoustique un titre qui s'appelle si je ne m'abuse, j'en ai oublié le nom, où ai-je mis la pochette de l'album?
My Turn's Blood.
C'est absolument ça, est-ce que tu peux un petit peu me présenter ce morceau?
Alors, en fait, je fais très rarement des morceaux politisés et que comme j'ai dit avant, je devais un peu écrire ce morceau. Je l'écris la veille de l'enregistrement et j'avais quelques arrangements en tête, quelques trucs en tête et surtout un thème qui était le le fait que aux États-Unis ils aient fait traverser les fabuleux pipelines à travers l'espace indien réserve il y a maintenant de ça un an ou deux ans peut-être quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qui m'avait assez énormément énervé vu que je suis assez pro-indien et assez fan de la culture indienne native américaine. Donc voilà, j'avais décidé d'en écrire un morceau.
On se l'écoute tout de suite.
Our land, yeah, they came to our land, so we got them wide open hands. Now they cut our wings down, yeah, they cut our wings down. No, they weren't afraid to lie. Now they tones didn't sound that good. Then be gone soon, now the mud turns blood. I put my head into my hands, put my head into my hands. When I saw our black heels dead, now they tongues didn't sound that good. They be gone soon, now the mud turns blood. Now they tongues didn't sound that good. Be gone soon, now the mud turns blood. Hit the ground. Want my home, you'll have to shoot me down. No, they weren't afraid to lie. We were not afraid to lie.
Merci beaucoup.
Tu as gagné un rafraîchissement et on en profite. Alors là, je suis le roi de la transition pour écouter le morceau Bottleneck dont tu étais armé pour interpréter le titre précédent en live. C'est parti.
Oh!
Bottleneck par Dirty Deep. Victor, depuis cette année et toutes ces aventures vécues, est-ce que tu as senti une certaine évolution au sein du groupe? Qu'est-ce que tout cela vous a apporté?
J'ai envie de dire drastiquement. on a senti une grosse évolution et c'est ce que je t'expliquais précédemment dans la soirée quand j'ai dû un peu en montant un dossier, j'ai dû un peu revoir les choses de pourquoi les jouer ailleurs, pourquoi s'exporter un petit peu de la France. En fait, pour moi, il me paraît aussi excessivement important, voire obligatoire, en fait, de se confronter à d'autres cultures et manières de voir la musique, les prestations, l'approche artistique de tout. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, on s'est mangé une tarte culturelle qui était assez dingue, pour la bonne et simple raison que ben toute la musique que finalement on joue, qu'on écoute, même en France, c'est quelque chose qui est ancré et qui fait intégralement partie de la musique américaine, sauf que eux la vivent d'une manière sincère et porté par leur cœur, en fait, quoi. Et on a vu les prestations les plus incroyables, pas en termes de technique musicale, mais en termes de représentation de musique, des choses qu'on n'a jamais vues avant, c'est-à-dire des gens qui prenaient le public par la main, littéralement, c'est-à-dire qui descendaient dans le public, qui leur parlaient. Et c'est pour ça que, ben voilà, quand on voit des solos de B.B. King en une note, on a l'impression qu'il fait sortir tous les péchés qu'il a de son corps en faisant une note avec un vibrato. Ben en fait, c'est vraiment ça qu'ils font, simplement. Et le fait de voir ça et de le vivre en vrai, ça nous a un peu recadré en tant que petits Français blancs qui voulons jouer du blues. Et c'est vrai que c'est une expérience d'aller voir des vrais concerts dans le Mississippi, dans des vrais juke joints. C'est quelque chose que je recommande à n'importe quelle personne qui s'intéresse de près ou de loin au blues, parce que c'est porteur d'un message qu'on a malheureusement oublié avec la traversée simplement des accords à travers l'Atlantique. C'est quelque chose qu'on a oublié pourquoi on fait ça, en fait. Et voilà, c'est ça qu'on a revécu et qu'on a... et par lequel on s'est réimprégné, en fait, en allant là-bas, ouais.
En même temps, c'est une démarche que tu as toujours développée, toi, de ton côté, puisque tu as toujours privilégié le feeling, l'âme de la musique à son aspect technique.
Ah, complètement. C'est d'ailleurs beaucoup ce qu'on me reproche en France. mais oui, effectivement, moi, je considère que quelqu'un, analysons 5 secondes juste la version de John the Revelator de Sun House, où au bout de 20 secondes, il se décale du tempo. Très sincèrement, on s'en fout parce que il met tellement d'énergie dans ce qu'il fait que on s'en fout si c'est un temps ou un contre-temps ou peu importe, c'est simplement l'énergie qu'il veut transmettre qui est là, quoi.
Puisque tu parles de John the Revelator, j'ai envie de bousculer un petit peu l'ordre qui était établi dans l'émission. J'ai très envie d'en écouter ta version, justement, parce que c'est quand même un morceau magique. C'est la quatrième plage du disque, donc nous allons rapidement la modifier et écouter ta version. Qu'évoque ce morceau pour toi, qui est quand même puissant? C'est l'une des rares de reprises du disque.
À vrai dire, c'est la seule reprise que j'ai jamais enregistrée. Et en fait, je viens d'une famille, surtout du côté de ma mère, qui est très catholique à la base. Et ce morceau évoque un des premiers passages de la Bible. Du coup, l'arrivée, le jugement par Dieu de Adam et Ève. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très basique, et finalement quand on en regarde un petit peu sociétalement, c'est quelque chose encore très vrai et avec lequel on peut encore parler avec beaucoup d'entrain. Tell me who that's writing, John the Revelator. Tell me who that's writing, John the Revelator. Tell me who that's writing, John the Revelator of the book of the seven seals. You know that God walked down on the cool of the day and called Adam by his name, but he refused to answer, 'cause he was naked and ashamed. Tell me who that's writing, John the Revelator. Tell me who that's writing, John.
several seals.
S'est produit aux États-Unis, il se produit à l'échelle européenne, beaucoup en France évidemment, mais peut-être pas beaucoup dans le circuit blues, aussi étrange que cela puisse paraître. On en a souvent parlé, Victor, hein, mais que faire pour faire bouger les choses?
Bien que trop souvent.
c'est quand même un comble quelque part. Comment tu peux expliquer ça? Tu disais, voilà, t'es peut-être pas assez technique, les amateurs de blues cherchent les souloirs à longe.
Il y a une partie de ça, de la technicité, je pense, qui manque aux grands amateurs de blues de vouloir des envolées de solo et des choses comme ça. S'il y en a qui écoutent l'émission, je suis désolé de critiquer ça comme ça, mais, je pense qu'en France, on veut se revendiquer trop traditionnaliste sur quelque chose qui n'est pas censé l'être. Et ça fait partie un peu de la deuxième baffe culturelle que je me suis pris aux États-Unis, c'est-à-dire que, excusez-moi de l'expression, mais ils en ont rien à foutre là-bas, en fait. Tant qu'on porte une certaine passion pour la musique et pour cette musique-là, les gens sont ouverts, réceptifs et volontaires à écouter des nouvelles choses. Et il est vrai que mes deux acolytes qui sont pas là sont très ouverts à énormément de styles musicaux différents, moi aussi, notamment voilà du hip-hop, du metal, du stoner, du rock divers et variés, de la folk, de la country dépressive, du jazz, tout n'importe quoi. Et c'est vrai que nous, on aime bien essayer de c'est comme un bon plat en fait finalement, si on met pas d'épices, ben ça relève pas le goût. Ben nous, on aime bien relever le goût de ce qu'on fait par les épices qui viennent de différents styles musicaux, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas très apprécié en France dans la scène traditionnaliste blues.
En tout cas, une chose que des complices, compères américains ont bien su détecter, hein, c'est le talent du groupe. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui vous êtes très apprécié par des artistes tels que Left Lane Cruiser, James Legg, évidemment, et bien d'autres. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette complicité qui vous unit avec des gens tels qu'eux ?
Déjà pour moi, simplement la première rencontre que j'ai fait avec eux date de 2011 au Binic Blues Festival, qui a fait partie de ma toute première tournée, première fois que je prenais la route, je venais d'avoir le permis, c'était assez rigolo, et je les ai rencontrés parce qu'on jouait dans le même festival et c'était des gens que j'admirais énormément. Il s'avère que notre bon ami Sam the Man, notre ingénieur son pour du coup les trois premiers albums, a déjà roulé pour eux parce qu'il est tour manager aussi à côté et m'avait présenté à eux. Et c'est vrai que on avait beaucoup sympathisé parce que simplement pour la passion de la musique, la passion de la déconne, la passion de boire des coups, la passion de la vie simplement, quoi. Et on est resté un peu en contact depuis. James Legg, entre autres, via Strasbourg. Il sort avec une petite strasbourgeoise, du coup on a continué beaucoup à se voir. Joe de Left Lane Cruiser, le chanteur guitariste du coup fondateur du groupe, je l'ai eu au téléphone cet après-midi parce qu'on joue dans le même festival au Canada la semaine prochaine, on continue à s'apprécier, à s'appeler, à se supporter d'un point de vue projet, se congratuler les uns les autres, et c'est une très bonne ambiance, et malheureusement des fois c'est un peu ce qui manque en France, j'ai l'impression.
En introduction à cette émission, je parlais de rêves. Pour la conclure, j'aimerais que tu me dises quels sont tes rêves aujourd'hui.
Mes rêves aujourd'hui, c'est juste de continuer, je pense, à faire ce qu'on essaye de mettre en place depuis maintenant 2 ans à 3. C'est-à-dire de se supporter, de s'aimer, de faire de la musique ensemble, de sortir des nouveaux albums, de sortir des beaux morceaux, de vivre des belles expériences et de continuer à parcourir la planète en faisant finalement juste ce qu'on aime et ce qu'on a envie de continuer à faire.
C'était Victor de Dirty Deep dans Route 66 sur le 103.5 FM et le www.rdl68.fr pour ça. 4e venue, on attend impatiemment la 5e, ça sera en 2018 forcément.
Pour le nouvel album, vous inquiétez pas, il vient.
Produit par Yarol Poupeau et avec Manu Lanvin en invité. On se quitte en beauté, mais auparavant j'aimerais quand même vous rappeler quelques adresses internet utiles. La tienne par exemple, on peut te retrouver sur Facebook, il suffit de taper Dirty Deep.
Oui, sur Facebook on a aussi un compte YouTube, on a un très très bon ami très doué qui nous sort régulièrement des clips. Je vous invite à aller les voir sur notre page personnelle YouTube.
Et bien sûr, Dirty Deep, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, celui de l'émission, sur laroute66.free.fr, puisqu'il y a deux ou trois de tes interviews qui sont transcrites parmi plus de 625 autres. Il y a également des reportages sur tes précédentes venues. Merci encore à toi et surtout merci à Elsa qui a tout mis en œuvre pour que cette rencontre se passe bien. Et c'est quelque chose qu'elle manie à merveille.
Merci Elsa. Keep it.
On se quitte en beauté avec Shine. On termine dans la poésie et dans la douceur.
Merci à vous, à bientôt.
Merci.
watch off my heart, putting on of sorrow. You light my day.